It's live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Lucia Mouzel pour la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
Pour la rédaction russe, Denis Strelkov.
Dobrый день.
Et Alireza Manavzadeh, la rédaction persane.
Durudbashuma.
Bonsoir à vous. Alors ce soir, encore, attachons-nous à la pandémie de coronavirus et aux moyens de lutter contre avec la vaccination. Dans le monde entier, il s'agit d'injecter le plus vite possible ce remède, mais les produits, les situations, les politiques varient d'un pays à l'autre. Les polémiques également dans cette sorte de géopolitique des vaccins. Rien que cet après-midi, le chancelier autrichien a accusé certains États membres de l'Union européenne, sans les nommer, d'avoir négocié en coulisses des contrats avec des laboratoires, fustigeant une répartition inégale des vaccins contre le Covid entre pays. Alors il y a maintenant plusieurs vaccins, ceux de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, et puis, Denis Kalklov, le Sputnik V, développé en Russie. Ce vaccin est disponible par exemple au Venezuela, en Argentine, mais pas en Europe, et certains y voient surtout un projet politique.
Tout d'abord, ce nom officiel est beaucoup moins attractif, c'est Gamkavitvac. Sputnik V, c'est son nom pour le marché. Et pour comprendre ce que le vaccin russe signifie pour le Kremlin, pour Moscou, on va d'abord le déchiffrer. Sa première partie, Sputnik, ou le satellite en français, nous renvoie au lancement du satellite artificiel de la Terre par l'Union soviétique il y a plus de 60 ans. À l'époque, c'était un gros succès pour le parti communiste, un vrai triomphe. Et V signifie la victoire, donc même le nom du vaccin signifie le succès russe, un peu comme à l'époque de l'exploration spatiale. Sputnik V, c'est plus qu'un simple vaccin, c'est une marque, c'est un symbole. Du point de vue officiel, je cite le ministère des Affaires étrangères, la Russie ne participe pas dans cette course au vaccin pour Moscou. Sputnik, ce n'est pas un enjeu politique. Mais écoutons d'abord l'homme fort du Kremlin, Vladimir Poutine. Voici ce qu'il a annoncé à la télévision russe.
В последнее время много об этом говорим и, в общем, гордимся по праву нашими учеными.
C'est donc Vladimir Poutine qui parle.
Exactement, et il dit que le monde ne pourrait pas surmonter l'épidémie sans Sputnik V, que le vaccin russe est le meilleur sur le marché, qu'il souhaite bon courage aux concepteurs des vaccins Pfizer et AstraZeneca qui ne peuvent pas pour l'instant être aléateurs des scientifiques russes. Poutine dit qu'il faut absolument travailler ensemble pour, je cite, obtenir un résultat souhaité. Cela veut dire que le monde n'a pas de choix, la collaboration avec la Russie s'impose. Mais je rappelle, la diplomatie russe insiste pour promouvoir le vaccin russe. Ce n'est pas faire de la politique, mais faire en sorte que la pandémie prend fin le plus vite possible.
Oui, alors, polémique, politique, peut-être communication, tout cela finalement, on ne sait plus trop bien où on en est. Hein.
Absolument. Ah bah, en partie, la Russie va ouvrir ses frontières le plus vite possible. Ça, c'est aussi la raison. Mais il y a des preuves que l'enjeu politique est bien présent. Washington, par exemple, a dénoncé une désinformation russe pour le vaccin américain, surtout Pfizer. Pour les États-Unis, c'est une évidence. Le renseignement russe dirige les sites d'information pour diffuser des rumeurs sur ces vaccins. Par exemple, ces médias parlent davantage des effets secondaires des vaccins américains, des faits qui ne sont pas vérifiés. Et par rapport à Sputnik, que du positif. Selon le New York Times, la faute est surtout à Russia Today, un média qui appartient à l'État, un outil de propagande russe présent presque partout dans le monde qui coûte très cher aux contribuables russes. C'est surtout l'Amérique latine qui est visée par ces messages et comme par hasard, Sputnik est bien présent dans cette région.
Alors Denis, en Europe, Sputnik V séduit plusieurs pays, dont la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, des pays de l'Est, hein, c'est par hasard. Pour cause, les laboratoires américains ne peuvent pas remplir les contrats, les objectifs fixés par les contrats. Est-ce que Moscou a pour objectif de vendre son vaccin en Europe, au-delà de ces pays dont je viens de parler?
Ce qui paraît évident, c'est que dans ce cas, l'argent n'intéresse presque pas à Moscou. Le patron du fonds étatique qui a développé le vaccin, Kirill Dmitriev, a indiqué que son prix pour l'export est fixé à 10 dollars, ce qui est peu cher par rapport à d'autres vaccins. Le gain pour la Russie, il est minime. Mais Moscou va néanmoins tout faire pour que l'Europe, que le vaccin russe soit utilisé en Europe. Peut-être qu'on va l'offrir, peut-être qu'on va le vendre. Tout d'abord, c'est un élément de soft power, un outil diplomatique et pourquoi pas un nouveau levier dans ces négociations politiques. Soyons clairs, la médecine, ce n'est pas une sphère traditionnelle pour la Russie, qui a l'habitude de vendre son pétrole, mais pas ses technologies. Et dans ce cas-là, c'est l'image de la Russie qui compte. Le succès du vaccin russe en Europe pour Vladimir Poutine et pour la propagande russe, c'est aussi la signe que cette fois, la Russie a fait mieux que l'Europe. Pour les Russes, ça veut dire qu'à Bruxelles, on ne peut pas surmonter une catastrophe sanitaire sans Moscou, un argument qui sera sans doute utilisé par l'extrême droite partout en Europe, ce qui va plaire à Moscou.
Alors, les autorités de l'Union européenne se montrent réticentes concernant ce vaccin, car elles considèrent qu'il n'est pas assez fiable. La présidente du conseil de direction de l'Agence européenne des médicaments l'a même comparé à la roulette russe. Fait l'humour. Est-ce qu'il y a des doutes sur l'efficacité de Sputnik V?
On peut dire que c'est un peu comme dans le casino. En Russie, on a souvent du mal à avoir accès aux données, surtout quand il s'agit des sujets sensibles. On sait que le nombre des morts, par exemple liés au coronavirus, a été sous-estimé. Il ne s'agit pas de 60 000 morts, comme on l'a annoncé, mais de 360 000 morts en 2020, si on se base sur le taux de surmortalité. Pour cela, quelle que soit la statistique officielle fournie par la Russie concernant le Sputnik, il faut la vérifier. Et vu que le vaccin est utilisé principalement à Moscou, en Russie, ce n'est pas évident. Un autre argument qui pose problème à Bruxelles, c'est que Sputnik a été homologué en Russie bien avant la fin de ses essais cliniques. Cela veut dire que la distribution de placebo parmi les volontaires a été arrêtée plus tôt que prévu. On a moins de données sur notamment les effets secondaires.
Voilà pour la Russie, on y reviendra un peu plus tard dans Action du Monde. Avant cela, Lucien Mouzel, au Brésil, il y a du vaccin, mais on manque de vaccins. La ville de Rio, par exemple, vient d'annoncer la suspension de la campagne de vaccination.
Oui, c'est une situation qui inquiète plusieurs villes du pays, en fait, car vous avez dû remarquer ces derniers jours, le Brésil vit le pire moment de la pandémie, avec un record de plus de 2300 morts dans une seule journée. Et dans ce contexte désespérant, les livraisons d'AstraZeneca, notamment, prennent du retard au Brésil, comme c'est le cas d'ailleurs ici en Europe. Brasilia aura ainsi presque 9 millions de doses en moins de ce qui était prévu pour le mois de mars. Également, la polémique autour des effets indésirables, justement, du vaccin d'AstraZeneca inquiète beaucoup les Brésiliens, qui ont aussi des doutes par rapport à l'autre vaccin administré au Brésil, celui du laboratoire chinois Sinovac. Ces derniers jours, on dénombre 2 cas de mort supposément provoqués par ce vaccin, avant que les autorités sanitaires n'écartent cette possibilité, Philippe.
Et bien, il y a les États-Unis qui annoncent qu'ils pourront céder des vaccins à d'autres pays qui en ont plus besoin, y compris donc cela concerne le Brésil ou l'Union européenne.
Voilà, c'est le journal New York Times qui l'affirme. Des dizaines de millions de doses de vaccins d'AstraZeneca sont stockées aux États-Unis car Washington a préféré se servir des produits de Pfizer et Moderna pour le moment. Les Américains ont acheté le produit d'AstraZeneca par précaution, mais il n'est même pas autorisé dans le pays encore. Du coup, selon ce journal, il y a une division au sein du gouvernement américain entre ceux qui préfèrent la prudence et donc garder ces doses au cas où, et ceux favorables à l'envoi tout de suite de ces vaccins à d'autres pays en faisant jouer cette fameuse diplomatie du vaccin tant exercée par la Chine et la Russie comme nous venons de voir. Le Brésil a déjà acheté l'immunisant chinois et il est en train de négocier avec les Russes pour au moins 10 millions de doses de Sputnik V. Alors on ne serait pas du tout surpris si les Américains décident de s'avancer là-dessus.
Plus largement, Lucien Mouzel, les vaccins chinois, russes, indiens ont du succès auprès des pays du Sud parce qu'ils sont moins chers et parce qu'ils seraient plus adaptés au climat.
Oui, tout à fait. C'est un avantage considérable si on les compare avec les produits de Pfizer ou Moderna. Certes, ces deux derniers sont plus modernes et notamment plus efficaces, mais sont aussi plus chers, beaucoup plus chers, et ont besoin d'être gardés dans des températures glaciales d'au moins 20 degrés négatifs.
C'est même plus, ça, c'est moins 80.
Voilà, oui, ouais. Ça dépend de la marque, là. Vous imaginez donc ce que cela représente comme problème logistique pour un pays chaud comme le Brésil ou les pays africains, hein, tandis que le vaccin chinois, les Russes ou l'Indien peuvent être conservés dans un frigo normal. Il faut aussi comprendre que si les pays en développement n'ont pas acheté davantage de ces vaccins de dernière génération, comme on dit, c'est parce que les pays riches s'y sont vite précipités. L'OMS, d'ailleurs, déplore que face au retard généralisé des livraisons, son dispositif COVAX est en train de se faire doubler par certains pays riches qui négocient directement avec les laboratoires. Ils risquent donc de prendre tout simplement les doses qui étaient destinées aux pays pauvres par ce biais du programme de l'OMS.
Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens demandent à ce que soit levé la propriété des brevets des vaccins contre le Covid.
Exactement. Cette semaine, plusieurs organisations, syndicats, médecins, intellectuels, ils se sont mobilisés autour de cet appel de Paris pour libérer la production de vaccins contre le coronavirus. Selon eux, 70 pays n'ont reçu aucune dose jusqu'à présent et cela représente un risque pour le monde entier à cause des variants notamment. Et ils estiment que face à la pénurie de vaccins dans les pays pauvres, la réquisition des moyens de production et la levée de ces brevets est une solution. Ce débat est en cours au sein de l'Organisation mondiale du commerce à la demande de l'Inde. Notre rédaction brésilienne a interviewé le psychiatre Carlos Parada, c'est un de ces médecins signataires de cette pétition. On l'écoute.
La crise exceptionnelle que nous estamos atravessando, esperar 20 ans est un absurde.
Il dit que dans cette crise exceptionnelle que nous traversons, il est aberrant, selon lui, de devoir attendre 20 ans jusqu'à la levée de ces brevets, comme c'est le cas actuellement. Ce médecin souligne que pour la plupart des brevets, les molécules ont été achetées par les grands laboratoires. Ce ne sont pas eux-mêmes qui l'ont développé, bien qu'ils les commercialisent maintenant. Donc, Carlos Parada espère que ce système pourra changer, au moins en ce qui concerne les vaccins contre le Covid.
Voilà donc pour la situation au Brésil. Pour ce qui est maintenant de l'Iran, Alireza Manavzadeh, l'Iran se trouve toujours parmi les pays qui sont durement touchés par la pandémie de Covid-19. L'Iran qui a du mal à s'équiper en vaccins.
C'est vrai, et malgré ça, les autorités, comme par exemple Roland Blazar Soleimani, un officier supérieur des gardiens de la Révolution, prétendent que d'après un sondage, je ne sais d'ailleurs pas de quel sondage il s'agit, 85% de la population serait satisfaite de la gestion de la crise par le gouvernement. Mais il semblerait que ce soit faux.
Alors, le guide suprême, Ali Khamenei, n'a pas caché dernièrement son hostilité envers les vaccins provenant des pays occidentaux, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. La gestion de la crise en Iran serait donc soumise à des calculs politiques ?
Tout à fait. C'était le 8 janvier dernier. Il s'est clairement opposé à l'achat de vaccins provenant des pays occidentaux, notamment l'Angleterre et les États-Unis. Écoutons ce qu'il a dit. Il dit l'entrée des vaccins américains et britanniques dans le pays est interdite. Je l'ai dit aux responsables et je le redis publiquement. Si les Américains avaient vraiment réussi à fabriquer du vaccin, il n'y aurait pas eu de tels problèmes dans leur gestion de la pandémie. Eh bien, je n'ai pas confiance en eux. Ils veulent maintenant tester leur vaccin sur les autres nations.
Alors, ces propos qu'on vient d'entendre avaient été traduits à ce moment-là en anglais, publiés sur le compte Twitter d'Ali Khamenei. Mais Twitter les a supprimés le lendemain parce qu'il les jugeait contraires à ses principes.
Exactement. Ces propos ont provoqué sur les réseaux sociaux un torrent de réactions de la part des Iraniens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Même les autorités sanitaires iraniennes ont réagi et dans une lettre au président Hassan Rouhani ont rappelé que le vaccin doit être procuré uniquement avec une approche scientifique et dans l'intérêt national sans calcul politique.
Alors au final, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Ali Reza?
Après cette interdiction catégorique, les responsables se sont tournés vers la Russie, la Chine et l'Inde. Mercredi 10 mars, d'après les annonces officielles, la première cargaison de vaccins indiens appelée Covaxin est arrivée en Iran et a été livrée au ministère de la Santé. En fait, c'est la cinquième cargaison de vaccins qui arrive dans le pays. Auparavant, 3 cargaisons de Sputnik V. Au total, 320 000 doses avaient été livrées par la Russie et une cargaison de vaccins Sinopharm de 250 000 doses était arrivée de Chine. Hier, le 11 mars, Kyanush Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, a annoncé que l'Iran venait de recevoir 100 000 doses de vaccins cubains pour la troisième phase des essais cliniques qui permettra, comme vous le savez, de définir les conditions et les précautions d'emploi du vaccin.
On voit bien que quand on parle de géopolitique du vaccin, ce n'est pas simplement une formule de journaliste. Et on voit bien que Cuba, avec la Russie, c'est un pan du monde. De l'autre côté, les vaccins créés par les pays occidentaux. Finalement, on retrouve dans cette histoire de vaccins, de fabrication, de diffusion, eh ben finalement les équilibres qu'on connaît depuis des dizaines d'années sur des tas d'autres sujets. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 часов в Париже,
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Venons-en maintenant à ce coup de tonnerre qui a résonné au Brésil cette semaine. Ce sont les condamnations décidées contre l'ancien président Lula qui ont été purement et simplement annulées par la Cour suprême. Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne. Politiquement, cela veut dire que le président Bolsonaro pourrait se retrouver face à un concurrent de poids lors des prochaines élections, c'est-à-dire Lula.
Oui, exactement. Cette décision change complètement la donne pour 2022, lors des prochaines élections. La Cour suprême a donc annulé les verdicts à l'encontre de Lula, estimant que le tribunal régional qui l'a condamné à une peine de prison, quand même, hein, était incompétent pour juger l'ancien président. Cela veut dire que les droits politiques de Lula sont rétablis et il pourra se représenter. Dès le lendemain, l'ancien président de gauche, accusé de corruption à maintes reprises, a pris longuement la parole et s'est posé en tant que sauveur d'un Brésil plongé dans l'extrémisme de droite et le négationnisme aussi de Jair Bolsonaro face à la pandémie. C'est clairement un discours de campagne, hein, Philippe, une campagne focalisée sur le combat contre le coronavirus. Lula a fortement défendu les vaccins, les gestes barrières, les mesures de confinement. Donc je vous propose de l'écouter, peut-être le réécouter cette semaine.
Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só.
Lula, l'ancien président du Brésil qui aimerait bien retrouver le pouvoir l'année prochaine.
Bah, il dit « Je me fiche de quel pays vient ce vaccin, ou si c'est une ou deux doses, je veux me faire vacciner, je vais faire l'éloge du vaccin au peuple brésilien. Ne suivez aucune décision imbécile du président de la République, ni de son ministre de la Santé. Prenez le vaccin, c'est une des seules solutions pour nous débarrasser du Covid. »
Alors, ce que dit Lula met mal à l'aise Bolsonaro, l'actuel chef de l'État, lequel a changé de discours. Expliquez-nous cela. Là.
C'était assez incroyable à voir. Le jour même, Bolsonaro et toute son équipe se sont présentés masqués à une cérémonie. Je dis bien avec cet accent parce que c'est une première. Jusqu'ici, le président refusait systématiquement de porter le masque, qu'il méprise sans cesse. Et cette cérémonie, d'ailleurs, était pour annoncer enfin l'autorisation pour l'achat du vaccin Pfizer que le gouvernement brésilien avait boudé pendant des mois. Puis, ces mêmes jours, les deux fils de Bolsonaro, qui font office d'attaché de communication du président, ils ont lancé sur les réseaux sociaux des slogans pour dire que le vaccin est l'arme du gouvernement contre le Covid, refuser l'idée selon laquelle leur père était anti-vaccin, malgré un tas de déclarations de Bolsonaro dans ce sens. Bref, le retour en force de Lula dans ce rôle actif contre le coronavirus que Bolsonaro a toujours refusé de jouer a fait en sorte que le président et son entourage comprennent enfin que les Brésiliens ont besoin d'un leader fort contre cette pandémie. Et ce, surtout en ce moment clé où le nombre de morts quotidiens ne cesse de grimper à des niveaux jamais atteints jusqu'ici.
On a l'impression d'un copier-coller avec ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois.
Oui, exact.
Ce retour de Lula, c'était quelque chose d'inattendu, la surprise est totale. Est-il toujours le nom le plus fort à gauche sur la scène politique brésilienne?
Incontestablement, oui. Même s'il incarne cette perception selon laquelle la gauche brésilienne ne se renouvelle pas, et même si lui-même est affaibli par toutes ces des années d'accusations de corruption, sa prison et tout ça, on n'a pu que constater la force politique de Lula après son discours. Les analystes les plus sceptiques à son égard ont été obligés de reconnaître que pour la première fois, quelqu'un s'est porté comme un leader dans cette crise sanitaire. Que ce soit Lula ou autre, ce n'est pas là la question, mais le Brésil n'a pas de leader pour gérer cette épidémie dont la gravité, le gouvernement ne reconnaît toujours pas. Et l'opposition à Bolsonaro est très dispersée depuis quelques années. Les forces de gauche ne sont jamais arrivées à faire blocus contre Bolsonaro. Lula pourrait donc être cette personne autour de laquelle la gauche va enfin se regrouper.
Alors la question à se poser maintenant, c'est qui vers les électeurs qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre vont se tourner?
Oui, c'est un enjeu de taille. On parle d'environ 40% des Brésiliens. Nous avons entendu le politologue Alexandre Bandeira, directeur de l'Association des consultants politiques. Il nous explique que le Brésil reste très polarisé politiquement et pour l'instant, aucune force politique n'a réussi à se faire remarquer au centre. Écoutons-le.
A classe que elegeu Bolsonaro presidente não é mais a mesma categoria que hoje apoia.
Que dit ce spécialiste, monsieur Bandeira?
Il dit que les électeurs qui ont élu le président Bolsonaro ont changé. Ceux qui lui restent fidèles sont la frange la plus extrême. Donc, concernant ceux qui veulent un troisième candidat, ils chercheront celui qui représentera l'antithèse de Bolsonaro, mais aussi de Lula. Et ce ne sera pas évident à trouver. Et reste à savoir aussi si cette personne sera capable de convaincre dans un pays très vaste, très inégales en besoin comme le Brésil, Philippe.
Voilà donc pour la situation au Brésil. Nouvelle donne, Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. La rédaction russe avec Denis Strelkov qui revient de Russie justement. Vous avez réalisé plusieurs reportages, Denis. Revenons encore sur ce vaccin russe Sputnik. Est-ce qu'en Russie, tout le monde y a accès?
Vous savez, quand on est à la capitale russe, on parle sans cesse de vaccins, avec des amis, avec la famille, même avec les chauffeurs de taxi. On peut croire que beaucoup de personnes sont déjà vaccinées. Dans le métro, les gens ne portent pas de masque, elles sont vaccinées, ils se sont protégés pour recevoir le vaccin. On n'a même pas besoin de sa carte d'identité. Et surtout, la vie à Moscou en 2021 ressemble à la vie normale, celle de l'avant. On peut croire que Moscou dispose d'un très grand stock de vaccins que le Kremlin peut envoyer n'importe où, tout de suite. Mais cette impression, elle ne correspond pas à la réalité. Le vaccin est déjà en Amérique latine, dans les pays voisins, mais en Russie, il y a encore des régions avec très peu de gens vaccinés. Et je cite là encore Vladimir Poutine, dans 9 régions, la vaccination n'est même pas commencée. Parlons des chiffres. À Moscou, 5% de la population est vaccinée. Dans la Tchétchénie, même pas 2%. Et on va encore faire une comparaison avec la France. Hier, les autorités ont annoncé une délivrance de 288 000 doses de vaccin en Russie, dont la population est plus que deux fois plus importante. On ne parle que 120 000 vaccins par jour. Le rythme n'est pas le même.
Alors, quelle est la raison de ce retard? Manque de doses? Méfiance de la population?
Il faut admettre la vérité. En Russie, le vaccin sont disponibles à tous ceux qui veulent se faire vacciner. Même il y a parfois des petites ruptures dans une région ou l'autre. Pour fournir les vaccins à tous, y compris à l'étranger, la Russie augmente actuellement la production du vaccin. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne veulent pas se faire vacciner, surtout dans les régions rurales. Selon l'étude de Levada Center, une agence d'études psychosociologiques indépendante, 2/3 de Russes n'ont pas envie de se faire vacciner par Sputnik. On écoute Stéphane Goncharov, sociologue à Levada. Selon M. Goncharov, les gens ont peur des effets secondaires du vaccin Sputnik. En effet, on peut avoir de la fièvre, des maux de tête et d'autres symptômes après la vaccination. En plus, plus que la moitié des Russes n'ont plus peur d'être infectés par le coronavirus, même si seulement 1/3 disent qu'ils ne connaissent personne qui a attrapé le virus. Difficile d'expliquer ce courage des Russes. Et encore un chiffre intéressant, 2/3 des personnes en Russie pense que le virus a été créé de manière artificielle en tant qu'une arme biologique.
Ouais, sauf que officiellement, le vaccin Sputnik V est sûr à 100%. Est-ce que les Russes ne font donc pas confiance à leur gouvernement?
On a déjà évoqué avec vous que la statistique fournie par Moscou, il faut la vérifier et la prendre au deuxième degré. Les Russes le savent très bien. Il faut dire que les doutes sur la sécurité de Sputnik sont toujours là. Mais la dernière étude publiée en février dans le journal international réputé Lancet paraît assez fiable. Son efficacité est estimée à presque 92%. On peut l'utiliser avec succès même pour les personnes âgées. Mais là aussi, il y a quelque chose qui cloche. Voici le témoignage de Vassili Vlasov, professeur à l'école supérieure de l'économie à Moscou.
В одном из видов анализов, которые приведены. Там количество людей, которые анализируются через 20 дней, больше, чем через 10 дней.
Alors, que dit-il? Avec ses collègues, Vassil Vlasov a passé toutes les données publiées sous la loupe. Il a découvert que le nombre des patients qui participent à l'étude change au fur et à mesure, que certains indicateurs se rassemblent, même s'ils sont censés être différents. Et il y a pas mal de petites fautes qui n'ont pas lieu d'être, ce qui permet de poser des questions sur la fiabilité de l'étude, mais pas sur le vaccin en soi, selon M. Vlasov. Tous les vaccins ont des effets secondaires, y compris Sputnik V. Dans le cas du vaccin russe, il y a encore peu de données disponibles, mais pour Vlasov, rien ne permet de penser que ce médicament représente un vrai danger.
Un avis qui n'est pour l'instant pas partagé par tout le monde, Denis.
L'Agence européenne des médicaments est en train d'analyser le vaccin et va un jour donner son feu vert ou rouge à Sputnik V. Mais l'agence indique que les données de la part des Russes sont en train d'arriver, c'est-à-dire que toutes les informations nécessaires ne sont pas encore disponibles. Les parlementaires européens se posent beaucoup de questions, par exemple si les volontaires qui sont présentés pour l'étude sont vraiment des volontaires ou si les autorités ont éliminé ceux pour qui le vaccin ne présente pas des risques importants. Dans le cas de réponse positive, Moscou promet de fournir 5 millions de doses de vaccins à l'Europe. Ce chiffre est bien supérieur au nombre de doses distribuées en Russie.
Denis Strelkov de la rédaction russe de RFI, donc sur le Sputnik V. Bon anniversaire, Alireza Manavzadeh. Bon anniversaire, la rédaction persane de RFI.
اینجا پاریس است، RFI, رادیوی بین المللی فرانسه.
اینجا پاریس است، RFI, رادیوی بین المللی فرانسه.
Alireza, vous vouliez que nous diffusions ces voix avant d'entamer donc ce 30e anniversaire de la rédaction persane de Radio France Internationale.
Oui, on vient d'entendre la voix d'Essama Nouchehri, rédacteur en chef du service persan de RFI, et celle de Farangiz Habibi, journaliste, qui fut elle aussi pendant plusieurs années rédactrice en chef de ce service. J'ai choisi ces deux voix parce qu'elles ont marqué, chacune à sa manière, la vie de notre rédaction depuis son lancement le 21 mars 1991.
Et donc, dans moins d'une semaine, le 21 mars, c'est par ailleurs le premier jour du printemps. La rédaction persane aura 30 ans.
Tout à fait. La première émission a été diffusée le premier jour du printemps 1991 sur les ondes courtes à destination des pays persanophones, c'est-à-dire l'Iran, l'Afghanistan et le Tadjikistan. Et cela depuis la maison de la radio. Vous savez que le premier jour du printemps est aussi le premier jour de l'année iranienne qu'on appelle Nowruz, le nouveau jour, que l'on célèbre pendant 13 jours.
C'est donc un choix de faire coïncider le jour du lancement de la rédaction persane avec le nouvel an iranien. Ces programmes ont-ils été favorablement accueillis par les auditeurs?
Je crois que oui. Puisque dans l'équipe rédactionnelle de la radio, au nombre de 8 au départ, il y avait des journalistes expérimentés, la radio a rapidement trouvé sa voie. En plus de cette équipe, des pigistes ont contribué à l'enrichissement des programmes. En fait, en peu de temps, ils ont réussi à concevoir des magazines variés dans le domaine de la littérature, du sport, de la politique et autres pour répondre aux exigences de différents publics. Le lancement des programmes a coïncidé avec des événements très importants comme par exemple l'assassinat de Shapur Bakhtiar, dernier premier ministre du Shah, événement qui a eu une répercussion au niveau, je dirais, international. Ensuite, il y a eu aussi les assassinats en série des intellectuels et des opposants au régime à l'intérieur du pays. Il y a eu également la dislocation de l'URSS en septembre 1991.
Quel a été le public de la radio au départ?
Je vous fais écouter à ce propos un journaliste des débuts.
RFI, radioi que dar Iran shenavande khodesh ro dasht. Fikr mikonam hala ham bayad dashte
bashe. Qu'est-il? Que dit-il?
Il dit RFI est une radio qui a eu son propre public en Iran. Je crois qu'elle l'a toujours, je veux dire qu'elle a toujours eu un public bien précis. Je me souviens qu'à cette époque, des journalistes, des activistes studentins, des juristes, des militants politiques écoutaient souvent les émissions de RFI Persan.
Que l'on peut résumer comment ? Quelle est la politique rédactionnelle ?
C'est une bonne question. D'après un journaliste qui avait pour une courte durée la responsabilité de l'équipe rédactionnelle, la direction des langues étrangères de RFI lui avait demandé de garder à l'esprit trois principes.
Alors lesquels, rapidement, parce que le temps nous manque.
Le premier est que les journalistes doivent éviter tout excès de langage. Le deuxième est que RFI Persan n'est pas la voix de l'opposition iranienne.
Et la troisième, c'est qu'il faut respecter l'impartialité totale. Mais ça, c'est vrai pour toutes les rédactions de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde sur RFI.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquières.